Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Stéphane Carpentier. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue à bord de RTL Soir le vendredi. 2 heures d'infos en direct pour tout savoir et tout comprendre avec ce soir un retour, celui des syndicats. Demain, c'est le 1er mai, jour de mobilisation et de défilé après un cru 2020 qui avait été virtuel en raison du Covid. Le leader de la CGT annonce du monde, une centaine de rassemblements. Un 1er mai qui arrive comme une bouffée d'oxygène pour les militants et les salariés, selon Philippe Martinez. Il sera tout à l'heure notre invité en direct à 18h15. L'occasion de savoir comment il voit le calendrier des réouvertures en France. 4 étapes dévoilées par Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont vus d'ailleurs cette semaine. Le patronat se dit satisfait de la visibilité donnée par l'Élysée. Quid des syndicats? Craignent-ils l'austérité après l'épidémie? Questions, réponses, promis dans un quart d'heure. RTL Soir, c'est parti. Merci d'être là. Et ça commence par le journal et les grands titres. Bonsoir Aude Vernuccio.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et à la une, danser dans une grande salle, de la musique à fond dans les oreilles malgré la pandémie. Vous ne rêvez pas, on connaît la date du prochain concert test à Marseille. La campagne de vaccination élargie à 4 millions de Français souffrant de maladies chroniques et au personnel navigant d'Air France sous certaines conditions. C'est une information RTL. En attendant de pouvoir vacciner tout le monde, et si AstraZeneca était proposé aux volontaires, la question est posée à la Haute Autorité de Santé. Et puis en cette veille du 1er mai, la crainte des Black Blocs pour les forces de l'ordre.
Vos incontournables dans RTL Soir d'ici 20h, Éric Brunet viendra avec sa liberté d'expression pour ses temps forts de la semaine. Rendez-vous à 18h50 et on va défaire le monde comme tous les vendredis à 19h15 avec Cini et compagnie. Avant cela, le ciel, la météo de demain. Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Dites-nous, encore bien frais hein.
Oui, le thermomètre baisse encore un petit peu. On sera 3 à 6 degrés sous les normales de saison. La moyenne ira de 11 à 17 degrés du nord au sud au meilleur de la journée, avec toujours cette petite bise de nord-est qui accentue cette fraîcheur. Côté ciel, ce sera encore couvert avec des averses parfois soutenues et orageuses des Pyrénées aux Alpes. Un ciel variable pour les autres, avec là aussi un risque d'averses sur la moitié nord. Et puis ce sera plus calme en revanche, avec des éclaircies sur les bords de Manche et le littoral atlantique.
Merci Céline.
RTL Soir.
Alors, je vous dresse le décor. Une salle de concert, des stands de boissons pas chères, cette moiteur dans la salle et le son des baffles qui grondent.
Si on pousse la porte, ça donne quoi? Juste pour voir, hein? Ça peut donner quoi l'histoire?
C'est mieux. Réalité pas si éloignée que ça. On connaît la date du prochain concert test. Ce sera le 29 mai prochain à Marseille, au Dôme. Bonsoir Sinamir.
Bonsoir.
Les organisateurs ont choisi de ne pas suivre le même protocole sanitaire qu'au concert test de Barcelone pour étudier réellement comment circule le virus dans une salle de concert.
Voilà, on sort de la logique de pass sanitaire. Là, au Dôme, il pourra y avoir des personnes qui assisteront au concert et qui seront porteuses du virus le 29 mai prochain. Pour cela, 1125 étudiants volontaires ont été sélectionnés par l'INSERM. Un groupe parmi eux entrera dans la salle avec des masques FFP2. Un autre n'assistera pas au concert et on comparera le degré de contamination entre ces deux groupes. Vincent Esternel est médecin urgentiste à Marseille et il fait partie des organisateurs de ce concert test.
Pour évaluer le sur-risque, il faut que de toute façon il y ait du virus en salle et il faut qu'il y ait des gens positifs pour pouvoir le comparer à une population qui n'y assiste pas. Il faut savoir que le choix qui a été fait aussi, c'est de choisir une population qui a très peu de chances de développer une forme grave s'il venait à s'infecter lors du spectacle.
Des étudiants qui seront suivis médicalement aussi, puisqu'on testera avant et après, pendant 2 semaines, ces 1125 participants. Les résultats seront juste sous pseudonyme pour éviter de fausser l'étude. Il n'y aura pas de buvette, désolé Aude, pas de vrai déplacement en salle, mais les participants pourront évidemment danser, puisque sur scène sont prévus Akhenaton, Shuriken et le groupe IAM. Je danse le Mia.
Ça rappelle des souvenirs. Explication musicale de Sinamir pour RTL. On rappelle les dates clés. Le 19 mai, réouverture des terrasses, des commerces et des lieux de culture. Le 9 juin, des salles de restaurants et des cafés. Puis le 30 juin, la possibilité de participer à des événements de plus de 1000 personnes munies d'un pass sanitaire.
Alors au lendemain des annonces du chef de l'État, le porte-parole du gouvernement assure le service après-vente.
Gabriel Attal s'est rendu à Blois dans le Loir-et-Cher, visite d'un centre de vaccination du Château Royal qui se prépare à rouvrir ses portes. fortes. Le porte-parole a aussi pris le temps de répondre aux questions de certains commerçants, comme celle de ce restaurateur.
J'imagine en effet qu'à la tête de l'État, vous avez autre chose à penser que s'il pleut, qu'est-ce qui va se passer pour nos terrasses. Mais pour nous, on va être confronté à ça. Moi, si je fais revenir mes équipes, que je fais rentrer de la marchandise que je produis, qui pleut pendant 4 jours, je fais quoi?
Il y a une partie de vos interrogations auxquelles, malheureusement, je vous dis, le gouvernement ne pourra pas répondre, c'est de savoir quelle météo il fera à la fin du mois de mai. Ça, j'adorerais pouvoir vous le dire. Ça n'est pas encore, malheureusement, dans les compétences de l'État, mais évidemment, moi, je les entends, vos inquiétudes. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a la deuxième étape qui arrive assez vite, puisque c'est 3 semaines plus tard, où là, on a la réouverture des établissements en intérieur, évidemment, avec une jauge qui va être définie. On travaille avec l'UMI, avec vos représentants, pour préparer, anticiper les protocoles sanitaires et pour bâtir avec vous des règles qui soient à la fois sécurisantes, mais qui soient simples aussi.
Des propos recueillis par Christian Panvert.
Alors la vaccination, en attendant le retour d'une vie presque normale en 4 étapes, la vaccination est élargie à 4 millions de Français supplémentaires.
Dès demain, tous les adultes qui souffrent d'une pathologie chronique, quel que soit leur âge, pourront prendre un rendez-vous. Ça va du diabète à l'asthme sévère. Autre profession, cette fois désormais prioritaire, dans certains cas, le personnel navigant d'Air France. C'est une information RTL. Tous ceux qui voyagent dans 5 pays à risque, comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, pourront se faire vacciner dès lundi. C'était une demande du premier syndicat de pilotes de la compagnie, mais Guillaume Gestas du SNPL veut aller encore plus loin.
C'est vrai qu'on aurait souhaité avoir une ouverture plus large de la vaccination pour les navigants. Certes, on va dans des zones à risque, mais on va aussi un peu partout sur la planète. Donc les variants, ils ne restent pas cantonnés aux pays qui existent aujourd'hui. On sait malheureusement que ces variants évoluent. In fine, ça veut dire qu'il va falloir vacciner quasiment la plupart des PN long courrier, que ce soit aussi bien les pilotes que les hôtesses et stewards. Mais après, en escale, voilà, on est amené à se déplacer pour au moins aller à l'hôtel. On est content de l'annonce qui est faite aujourd'hui. On aurait souhaité que ça aille un peu plus loin. Maintenant, on a bon espoir que ça arrive assez rapidement pour tous les PN, puisqu'il semble quand même que ça soit assez logique.
Propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. Alors Emmanuel Macron l'a rappelé sur Twitter, la campagne vaccinale sera ouverte à tous les adultes dès le 15 juin. Et si le calendrier allait encore plus vite? Le ministre de la Santé a saisi la Haute Autorité de Santé pour proposer AstraZeneca à tous les Français volontaires en signant une sorte de décharge. La décision ne verra peut-être jamais le jour, mais sur le terrain, certains médecins la mettent déjà en pratique, Philippe de Barrière.
Chaque samedi à son cabinet, le docteur Marc Allier trouve toujours suffisamment de patients à vacciner avec l'AstraZeneca, sauf le week-end prochain. Et comme il est recommandé de ne plus utiliser ce vaccin pour les moins de 55 ans, les patients font tout simplement machine arrière. Le doute s'est installé.
Et bien là, j'ai 4 patients qui avaient moins de 55 ans. 2 ont déjà trouvé une solution avec le Pfizer. Et j'aurai 2 qui, a priori, ne souhaitent pas changer de vaccin, mais je vais leur demander de me signer un papier en me disant qu'ils sont OK pour le vaccin AstraZeneca pour que je les vaccine. Sinon, je ne les vaccinerai pas et je jetterai les doses.
Ce qui agace profondément ce médecin qui n'a pas ménagé ses efforts depuis février dernier pour protéger ses patients du Covid.
Les patients nous demandent la vaccination. Ils savent qu'un passeport va se mettre en place. Ils savent que des restrictions vont être allégées pour ceux qui auront ce passeport vaccinal. Et donc, jeter des doses alors qu'on pourrait les vacciner, c'est insupportable.
Philippe Demaria, correspondant d'RTL à Bordeaux.
À l'étranger, haute incertitude toujours sur l'organisation des Jeux Olympiques à Tokyo au mois de juillet.
Il n'y aura pas de public étranger en tribune, mais y aura-t-il du moins des spectateurs tout court? La décision est repoussée à juin et le protocole sanitaire s'annonce monstrueux pour protéger à la fois les sportifs et les Japonais. Philippe Dova.
Oui, au tout juste mise à jour, les règles du protocole à suivre par les athlètes étrangers, leurs accompagnateurs et les délégations officielles prévoient 2 tests dans les 96 heures précédant l'arrivée au Japon, puis un test quotidien pendant leur séjour. Les athlètes devront utiliser uniquement des véhicules sécurisés pour leur déplacement et ne seront autorisés à quitter leur logement que pour se rendre sur les sites d'entraînement ou de compétition. Pour ceux qui auraient envie de découvrir les charmes du pays du soleil levant en dehors de leurs obligations sportives, leur projet touristique sera soumis à approbation. Des dispositions donc très peu festives, mais à respecter sous peine de perte d'accréditation. Pour rassurer les délégations, le comité olympique nippon a tenté le 9 avril de réquisitionner 500 infirmières afin de veiller sur les sportifs étrangers. La demande refusée par l'association a enflammé les réseaux sociaux. Les Japonais, très majoritairement hostiles à la tenue des JO, ont en effet accusé les organisateurs de privilégier la santé des étrangers au détriment de celle de la population.
Philippe Dova, correspondant d'RTL en Asie.
18h09 dans RTL Soir, la suite du journal, c'est dans un instant avec le dernier hommage à Stéphanie Monfermé. Cérémonie présidée ce matin par Jean Castex. A tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Aude Vernuccio, pour la suite du journal, elle a été décorée de la Légion d'honneur à titre posthume. Hommage national rendu à Stéphanie Monfermé.
Et cette policière de 49 ans a été tuée par un terroriste à Rambouillet il y a maintenant une semaine, jour pour jour. Dernier adieu national en présence du Premier ministre ce matin.
Stéphanie représentait aussi une certaine façon de vivre en France. Une certaine façon de vivre la France. Cette vie paisible, laborieuse et serviable. Chez les Montfermé, depuis toujours, on se levait très tôt. Alain, parce qu'il est boulanger, et Stéphanie, pour pouvoir conduire ses filles à l'école avant de se rendre au commissariat. C'est à cette vie simple que je suis aussi venu rendre hommage.
Le discours de Jean Castex ce matin, cérémonie qui s'est déroulée à une rue à peine du commissariat dans lequel elle travaillait. À l'extérieur, de nombreux Français tenaient à être présents, Valentin Boisset.
Oui, à commencer par les collègues de Stéphanie, arrivés à pied, groupés depuis le commissariat. Un peu à l'écart, des dizaines d'anonymes et quelques connaissances de la fonctionnaire comme Nicolas.
J'ai bu quelques cafés avec elle. On pensait que tout était tout le temps sur Paris, enfin dans les grandes villes. Et là, qu'on se retrouve dans une petite ville comme Rambouillet, c'est de plus touchant.
Elle était dotée d'un caractère heureux.
Le Premier ministre dressera le portrait d'une femme symbole de la France travailleuse et tranquille. Pendant la minute de silence, quelques larmes coulent dans la centaine d'anonymes présents. Parmi eux, Pierre-Loïc et son fils. Ils saluent la tenue de cet hommage dans leur ville et non à Paris, comme c'est parfois le cas.
Ça me paraissait important pour Rambouillet, qui est d'habitude si tranquille.
Savoir que c'est des choses qui arrivent et quand ça arrive dans notre ville, bah, c'est pire encore.
Stéphanie Monfermé recevra donc la Légion d'honneur, un moment qu'attendait Véronique.
Elle le mérite. Vous avez vu sa tête? C'est une bonne mère de famille, tranquille. Elle a la bonté sur son visage et on est encore sur le coup de ses chocs.
La cérémonie s'est clôturée sur le départ du portrait de Stéphanie dans les bras de deux fonctionnaires de police.
Reportage de Valentin Boisset dans les Yvelines. À la veille du 1er mai, c'est traditionnel défilé, la crainte de débordement et des black blocs. Pour l'instant, 15 000 manifestants sont attendus dans la capitale. Les forces de l'ordre ont mis sur pied un dispositif conséquent, c'est le terme utilisé, Guillaume Chiez.
Oui, la crainte des autorités, c'est de revivre le même scénario que lors des 1er mai 2018 ou 2019. Un cortège syndical qui se fait déborder par les casseurs et beaucoup de dégâts matériels. Depuis quelques jours, des vidéos qui appellent à défendre les libertés à s'insurger contre le gouvernement circulent parmi les réseaux d'ultra-gauche. Les enquêteurs du renseignement pensent qu'ils pourraient être rejoints par ceux que l'on appelle les ultra-jaunes, une émanation radicale du mouvement des Gilets jaunes. En tout, la préfecture estime que plusieurs centaines de casseurs pourraient tenter de perturber le cortège en constituant un black bloc, une action violente, ultra-rapide en tête de cortège et notamment dès le départ à 14h, place de la République. Pour l'éviter, les forces de l'ordre misent à la fois sur des contrôles en amont mais également sur leur nouvelle doctrine, intervenir vite et en masse pour faire en sorte que le mouvement ne prenne pas trop d'ampleur.
Merci Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. 1er mai de défilé sur lequel nous allons nous arrêter dans un instant en longueur avec le patron de la CGT, Philippe Martinez, qui sera notre invité.
Et puis les obsèques de l'acteur Yves Régnier, connu de tous sous le nom du commissaire Moulin, ont été célébrées ce matin à Neuilly-sur-Seine. De nombreuses personnalités, des amis du comédien s'y sont rendus, l'animateur Jean-Luc Reichmann, Véronique Jeuneste, François-Xavier Demaison ou encore l'actrice Mathilde Seigné. Il s'est éteint samedi dernier à l'âge de 78 ans.
À 18h14, la bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle pour les Français qui ont besoin d'un bon bol d'air après ce début d'année 2021 mouvementé. Vous y voyez déjà? Allez, un avant-goût. La mer. Elle vous attend. Bonne nouvelle aussi pour les professionnels du tourisme avec le boom des réservations depuis quelques jours pour les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte. Nicolas Bobby s'est rendu à Noirmoutier pour RTL.
Toute la journée, le téléphone a sonné au camping 5 étoiles Caravanil, Guillaume André, le directeur.
Pour l'ascension, on commence vraiment à être complet dans tous nos locatifs, donc dans tous les mobilhomes qu'on peut présenter à la location. Ensuite, tout ce qui est emplacement camping, donc nu, où il faut être équipé bien sûr de sa caravane, de son camping-car ou de son matériel de camping. Il reste encore quelques disponibilités pour ces week-ends-là.
Il reste quelques chambres à l'hôtel Ancre Marine. Les vacanciers posent toujours les mêmes questions à Claire Arnaud avant de réserver.
Si la piscine est ouverte, si le spa est ouvert, si on propose encore la location vélo, et surtout, grande question, pour le room service. Est-ce qu'on a une solution de restauration le soir? Donc, sachant que nous, on a une carte de room service.
Noirmoutier ne manque pas d'atout, Pascal May, directeur de l'office de tourisme.
C'est la pleine nature, prendre un bon bol d'air en famille. La plage, les randonnées pédestres, les randonnées vélo, l'observation des oiseaux.
Les Parisiens constitueront le gros des troupes.
Ça, c'est bien vu. Un reportage de Nicolas Bobby à Noirmoutier pour RTL.
Merci, Olivier Neuchaud. Je crois qu'entre la mer et puis l'ambiance dans une salle de concert du début de journal tout à l'heure, on a fait le maximum pour être bien avec vous ce soir sur RTL. 18h16, vous restez bien là. La suite de RTL Soir, c'est avec le leader de la CGT qui entre en studio. C'est Philippe Martinez, notre invité en direct, juste après ça.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Merci à vous tous d'être là, 18h18 en ce vendredi, jour d'annonce d'Emmanuel Macron sur les réouvertures, veille de 1er mai et de défilé. C'est donc le leader de la CGT, l'invité de RTL Soir. Bienvenue Philippe Martinez. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
En direct et en studio, Philippe Martinez. Le patronat se dit satisfait de la visibilité donnée par le président Macron avec ce calendrier de réouverture autour aux affaires pour les commerçants, les terrasses de café, les cinémas. Que dit le syndicaliste Philippe Martinez?
Je pense que tout le monde est satisfait d'y voir plus clair. Après, avec les, c'est ce que j'ai dit au président de la République mercredi, jeudi matin, pardon. Il y a quand même un monde scientifique, médecins, virologues qui poussent des alertes. Et donc, la pire des choses, c'est d'avoir un calendrier qui pourrait bouger. Pour beaucoup, ça serait une grosse colère.
Vous n'êtes pas politique, Philippe Martinez. Vous n'êtes pas médecin. Mais est-ce que vous pensez que ça va trop vite, qu'il y a trop de choses d'un coup, c'est trop précipité?
Il faut, en tout cas, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il faudrait pas en faire une de trop. Voilà. C'est bien d'avoir des perspectives, à condition que on accélère la vaccination, à condition que on renforce les tests, etc., etc. Parce que la pire des choses, c'est de donner des illusions aux gens, des perspectives aux gens, et que tout tombe à l'eau, si je puis dire. On a bien vu qu'il y avait déjà eu une polémique sur la reprise de l'école, non pas qu'il faille laisser les enfants à la maison, mais moi j'ai discuté avec des enseignants, ils ont reçu une lettre de leur ministre, très belle lettre durant le week-end, ils ont dit c'est vachement bien ce qu'il nous écrit, mais dans le concret c'est impossible à faire. Vous voyez ce que je veux dire?
Il paraît que vous avez fait rire le président Macron, justement, cette semaine, lors d'une rencontre, en lui faisant remarquer que, heureusement, nous avons eu notre modèle social pour faire face à la crise. Il a vraiment rigolé?
Il était masqué, donc j'ai pas vu, j'ai lu ça dans les journaux. En tout cas, oui, je lui ai dit que, alors qu'il lui-même critique beaucoup le modèle social français, je trouve qu'en ce moment, il y fait beaucoup référence. Et donc, plutôt que de le casser, avec la réforme de l'assurance chômage, par exemple, mieux de le renforcer. Oui, on a besoin de protection, on a besoin de sécurité sociale, on a besoin de salaire. Voilà.
Le télétravail, on n'y touche pas pour l'instant. C'est fortement encouragé d'ailleurs dans les premières étapes de ce calendrier de réouverture. Ça, c'est bien pour les salariés que vous représentez, non?
Oui, bien sûr que c'est bien. Mais là aussi, c'est pour ça qu'on est en désaccord avec ce qui a pu se signer au niveau interprofessionnel, à condition que les salariés qui sont en télétravail aient les outils pour travailler, et qu'ils télétravaillent vraiment, parce que travailler et garder les enfants, c'est pas du travail, c'est autre chose. Et puis, là aussi, être souple, parce que le travail, c'est du collectif d'abord, partout, tous les boulots. Il faut échanger avec des collègues, etc. Et donc, il faut trouver un équilibre entre la protection, la santé, le besoin de télétravailler, mais en même temps, se retrouver collectivement.
Et l'équilibre, on l'a pas pour l'instant?
C'est les conditions sanitaires qui imposent qu'il n'y ait pas d'équilibre. Mais j'entends déjà un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui, par exemple, pour faire des économies de locaux, disent tout le monde en télétravail, comme ça j'ai plus de loyer à payer. Ça, c'est pas bien.
Mmh. Emmanuel Macron veut mener une grande concertation cet été pour la relance. Aller sur le terrain, au contact des élus, des travailleurs, des patrons, pour prendre le pouls, pour inventer un deuxième temps de la relance en vue d'une sortie de crise du Covid. Vous allez l'accompagner, vous?
Moi, je vais sur le terrain, et je lui ai pas demandé la permission et j'ai pas attendu cet été. S'il va sur le terrain, il faut qu'il écoute surtout. Et donc j'ai eu l'occasion de lui dire, on parle beaucoup du quoi qu'il en coûte. Faut peut-être un peu regarder où ça va, ce quoi qu'il en coûte. Ça va beaucoup aider les entreprises, il faut les aider, notamment je pense aux petits commerçants, aux hôtels, cafés, restaurants. Mais le constat qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup d'aides qui servent à licencier des salariés. Je pourrais citer les fonderies, par exemple. Vous savez qu'il y a 3 fonderies qui sont en grève. Eh ben, on donne de l'argent pour aider à licencier. C'est pas ce que j'avais compris des propos de Monsieur Le Maire sur les relocalisations. Et puis, si l'argent, notre argent, parce que c'est de l'argent public qui sert à licencier, là, ça va pas du tout.
J'entends que vous défendez les salariés, Philippe Martinez, c'est votre rôle. Mais quand même, vous pouvez reconnaître que le gouvernement aura beaucoup soutenu les entreprises, les commerçants, les professionnels impactés par la crise. Mais on a beaucoup aidé, à la différence de nos voisins européens.
C'est ce que je viens de vous dire. On a beaucoup aidé les entreprises et on a moins aidé les salariés.
Qui font partie des entreprises.
Non. Un exemple, chômage partiel. Ça existait déjà avant la pandémie. Ouais. C'est ça notre modèle social d'ailleurs. Ouais. On rembourse à 100% les entreprises.
84% les salariés.
Et les salariés touchent 84%. Vous savez, pour ceux qui sont depuis 12 mois au chômage partiel, quand avec 100%, je ne vais pas citer Coluche, hein, mais quand on n'arrive pas à finir les 15 premiers jours du mois avec 84%, c'est pas mieux.
Est-ce que vous craignez qu'il y ait de l'austérité derrière tout ça, en sortie de crise ?
Mais il y a déjà, il y a déjà. Les deuxièmes lignes, ils attendent pas que des félicitations, ils attendent une augmentation de salaire. Pourquoi le gouvernement n'a pas augmenté le SMIC ? Il y a besoin, les hospitaliers, ils attendent pas uniquement, même si... on les applaudit moins aujourd'hui. Ce qu'ils demandent, c'est du personnel, des moyens, qu'on arrête de fermer des lits. Donc il y a déjà... On fait de la communication, mais on continue à serrer la ceinture. Et le symbole, c'est l'assurance chômage. On va supprimer, ou en tout cas réduire, les allocations chômage d'1 700 000 personnes. Au mois de juillet. Et eux, ils ne sont pas dans les plus grosses fortunes de France, ces gens-là.
Vous aurez l'occasion de scander tout ça demain, donc samedi 1er mai, c'est la fête du travail. Le retour des mobilisations dans les rues, hein, parce que l'an dernier, ça avait été virtuel, ce 1er mai, en gros. Hein. Là, vous défilerez en vrai. L'envie de montrer quoi ? Que les syndicats sont là ?
Non, les syndicats, ils sont là. Et
on a l'impression quand même qu'ils avaient disparu un peu des radars ces derniers temps, non ?
Comme vous... je lis la presse et j'ai noté des sondages qui montraient que les syndicats avaient été très présents durant cette pandémie, utiles aux salariés, notamment des petites entreprises. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a de la colère et on va pouvoir plus l'exprimer que ce qu'on a pu faire ces derniers mois, évidemment masqués, en respectant les gestes barrières, mais on va, d'ailleurs c'est un encouragement du gouvernement, il dit c'est dehors qu'on a le moins de chances d'attraper le virus, et ben vous voyez...
Vous attendez du monde demain, samedi ?
Écoutez, en tout cas il y a beaucoup de rassemblements, de mobilisations dans toute la France, je crois que c'est plus de 110 manifestations, rassemblements. Oui, on espère du monde, avec évidemment des citoyens, des salariés qui... la santé pèse aussi encore pour avoir des initiatives de ce style.
On en parlait dans le journal de 18h tout à l'heure avec Guillaume Chies de notre service police-justice ici à RTL. Est-ce qu'il y a des craintes de votre côté de débordement ? On pense qu'il y aura des gilets jaunes, qu'il y aura des ultra-gauches, des black blocs.
Nous, on ne le souhaite pas.
C'est inévitable aujourd'hui. Quand il y a des manifestations, ça déborde toujours maintenant.
Enfin, en tout cas, c'est pas les manifestants qui débordent, c'est des gens de l'extérieur qui font ces exactions. Et on le sait bien, les cortèges sont bien formés. Donc, j'allais dire, si vous croisez le préfet de police, posez-lui des questions parce que c'est dans sa cour, si je puis dire.
Vous assurez un encadrement du défilé ?
Il y a jamais de problème dans les cortèges. C'est à l'extérieur des cortèges. Et évidemment, on a toujours un encadrement justement pour sécuriser ceux qui sont dans les cortèges.
Ce sont quoi les dossiers d'inquiétude que vous mettez en avant ? Vous parlez beaucoup d'assurance chômage ce soir. Il y a aussi la réforme des retraites. Ces dossiers-là, ils sont toujours brûlants ou pas ?
Bien sûr, on est toujours contre. Ceci dit, je pense qu'il serait malvenu, très malvenu, de nous imposer à tous les syndicats une telle réforme, comme l'assurance chômage. Les préoccupations, c'est, hormis la santé, c'est l'emploi. Il y a beaucoup de plans de licenciement, je vous ai cité des exemples. C'est évidemment la reconnaissance des qualifications. Je vous ai parlé des deuxièmes lignes, mais y compris les hospitaliers. C'est les questions de conditions de travail. Voilà les sujets brûlants, si je puis dire, de la période.
Là, c'est des sujets brûlants comme l'assurance chômage, mais ça passe quand même, puisque ce sera appliqué à partir du mois de juillet, même si vous râlez.
Vous avez noté qu'on n'est pas encore le 1er juillet.
Oui, ça veut dire quoi ?
ça veut dire que c'est pas encore passé. On nous disait la même chose sur les retraites. Vous vous rappelez, j'ai même eu l'occasion d'en discuter ici dans ce studio. Je disais, mais c'est fini, elle passera, arrêtez de vous mobiliser. Hein, on est d'accord, elle n'est pas passée encore.
Alors on nous dit là, en cette fin avril, que l'économie française est repartie. Début 2021, à l'inverse d'ailleurs de nos voisins européens, une croissance de 0,4%. Ça, c'est positif.
Mais pourquoi faire ? Moi, ce que je vois, les délocalisations continuent, les plans de suppression d'emplois continuent. Aujourd'hui, ce qui fait la une d'actualité, c'est la fermeture de l'usine Bridgestone. Voilà. Donc, la croissance, c'est pourquoi faire ? Le constat, c'est que les riches sont plus riches et qu'il y a de plus en plus de pauvres dans notre pays. Bah, la croissance, ça ne doit pas servir à ça. Ça doit être une meilleure répartition de ces richesses créées par ceux qui travaillent, ceux qui cherchent du boulot. Là, on est plus dans de la croissance qui bénéficie à tout le monde.
Et ça, vous lui avez dit au président Macron cette semaine, lorsque vous l'avez vu ?
Je lui ai pas dit que ça, vous savez.
Ouais,
je lui ai pas dit que ça.
Il vous répond quoi ?
Non, je crois qu'il est obsédé par l'idée qu'il faut réformer ce pays. Alors, réformer, oui, il faut faire des réformes, mais pas celles qu'il choisit, qui consistent à encore plus couper en deux la société. Je résume ça comme ça. Il a démarré son quinquennat en supprimant l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire des cadeaux aux riches. Et vous voyez, il va le finir là, on est presque. Il reste un an, et ben il supprime ou il réduit les allocations pour les plus pauvres, c'est-à-dire les précaires et les chômeurs. C'est le résumé.
Merci Philippe Martinez d'être venu dans RTL Soir. La manifestation parisienne demain, c'est 14h, République Nation, CGT, Force Ouvrière, FSU, Solidaire, et puis il y aura des mouvements absolument partout, à Lille demain matin, à Marseille également. Merci d'être passé par la case RTL Soir. Entretien à retrouver évidemment sur l'appli RTL. L'actualité dans un instant avec la météo de votre week-end. A tout de suite.
RTL Soir.
18h30.
RTL Soir avec Stéphane Carpentier.
Et ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi, Aude Vergnaccio.
La campagne de vaccination élargie à 4 millions de Français. Si vous souffrez de diabète, d'obésité, d'asthme sévère et quel que soit votre âge, vous pourrez vous faire vacciner dès demain. Prochain objectif, la vaccination pour tous les adultes, ce sera le 15 juin prochain. Autre nouvelle cible, les personnels navigants d'Air France qui voyagent dans les 5 pays à risque. Inde, Brésil, Argentine, Chili, Afrique du Sud. Information RTL d'Arnaud Touche. Ce sera dès lundi. On connaît la date du prochain concert test, le 29 mai prochain. Ça se passera à Marseille, au Dôme, avec un peu plus de 1000 étudiants volontaires pour étudier la circulation du virus dans une salle de concert. On rappelle que les grands événements publics de plus de 1000 personnes pourraient être autorisés à partir du 30 juin en fonction de l'épidémie. À la veille du 1er mai, les forces de l'ordre se préparent avec la crainte de débordement dans les défilés et l'apparition des Black Blocs. Pour l'instant, 15 000 manifestants sont attendus dans la capitale. Et puis en football, crainte pour le prochain match de Ligue des Champions pour le PSG. Kylian Mbappé blessé au mollet, il sera forfait face à Lens ce week-end.
Absolument, merci Aude Vergnaccio. Toute l'actualité, c'est directement sur l'appli RTL et le foot en direct à partir de 20h tout à l'heure. Il n'y a pas Marseille, Cyprien Sini qui joue ce soir
contre Strasbourg. Allez, ouais, bah.
La météo pour tout le monde avant tout cela. Météoscope, oui. Céline Dacosta. 1er mai, demain, avec de la pluie.
Oui, on peut dire de fortes averses même pour le quart sud-est. Parfois orageuses avec des cumuls de pluie importants, surtout entre les Cévennes et la vallée du Rhône. Averses qui vont se décaler en fin de journée vers le Grand Est. Pour le reste du pays, un temps moins maussable puisqu'on aura des éclaircies. Mais encore beaucoup de nuages, là aussi un risque d'averses. On s'en sortira pas mal près de la Manche et sur les côtes atlantiques puisque le soleil devrait briller plus généreusement, mais toujours dans une ambiance bien fraîche, hein, puisqu'on perd encore quelques degrés, seulement 1 degré à Caen demain matin, ça pique. 3 à Lille, 5 à Nancy, 7 à Paris. L'après-midi, la moyenne ira de 11 à 16 degrés. On reste sous les valeurs de saison, 3 à 5 degrés en dessous. Ça va s'améliorer dimanche, puisque le soleil sera beaucoup plus généreux, du sud de la Bretagne jusqu'en Occitanie, région PACA. Pour la moitié nord, là aussi, ce sera plus lumineux, mais avec encore un ciel variable et puis toujours ce risque d'averse. Ce sera encore couvert et pluvieux sur le Jura et la Franche-Comté. Côté température, dimanche, on va regagner quelques degrés sous le soleil. 17 à 20 degrés, ça c'est près de la Méditerranée. Pour les autres, la moyenne ira de 13 à 17 degrés au meilleur de la journée.
Et puis, quid de la semaine prochaine? Alors, début de semaine prochaine, ça donne quoi?
C'est plutôt pas mal lundi. Hein. La rentrée pour les collégiens et les lycéens devrait se faire sous le soleil. Je pense à ma fille. La rentrée, ouais. C'est bien ça. Avec juste un petit peu plus de nuages près de la Manche. On en profite parce que mardi, c'est le retour de la pluie sur les trois quarts nord du pays. Le soleil va rester présent sur les régions les plus au sud. Mercredi, on va retrouver retrouver un ciel variable, hein, toujours nuages, éclaircies, risque d'averse. Et puis jeudi, c'est la pluie qui fait son retour sur la moitié nord du pays. Moi, je dis youpi parce que la pluie, on n'en a pas eu beaucoup en ce début de printemps. Et donc, ça va faire du bien, notamment aux agriculteurs qui l'attendent impatiemment.
Voilà le programme avec Céline Dacosta. Céline qui m'informait tout à l'heure que demain, c'est 1er mai, d'accord, mais c'est aussi une journée du jardinage tout nu.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, et tous les 1er mai. Et vous me répondiez que vous étiez adepte de cette
oui,
pratique.
Oui, bien sûr, évidemment. RTL Soir, bien sûr, on défait le monde. Cyprien Signy, son équipe prennent les commandes 19h15 pour défaire le monde. Actualité d'abord, avec diffusion de bonne humeur. Ça va, Cyprien ?
Impeccable.
Des belles choses ce soir.
Oui, on aurait pu faire le jardinage tout nu, d'ailleurs. On va vous engager dans l'équipe. Ce soir, on va faire un sujet plus grave quand même. On va faire pénétrer dans les coulisses de l'actualité. Vous le savez certainement, cette semaine, des fouilles monstres ont été menées dans les Ardennes à la recherche du corps d'Estelle Mouzin. Recherches qui n'ont rien donné. Et bien, dans On défait le monde, on va vous raconter l'envers du décor. Comment travaillent les policiers sur place? Comment se passent et s'organisent ces recherches? C'est un peu les experts. Vous serez au cœur de l'enquête. On vous parlera aussi du déconfinement. Alors, a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que pour les défenseurs des animaux, et ben, c'est une source d'angoisse. Vous comprendrez pourquoi en écoutant On défait le monde. On vous parlera aussi météo, Mélenchon et hippopotame. Et on vous offrira, comme chaque semaine, un super cadeau. Enfin, sauf que cette semaine, il est peut-être encore plus super que d'habitude, puisque déconfinement oblige, c'est une semaine de vacances pour 4 personnes.
Ah non.
Ah ouais, et vous avez le choix dans 400 lieux. Alors, à tout à l'heure, pour l'actu sérieuse sans se prendre au sérieux, on va se régaler.
Il y aura Monsieur Cadeau tout à l'heure.
Monsieur Cadeau et une nouvelle formule du jeu, je vous raconte pas.
Attention.
Ce sera pas une question, ce sera beaucoup plus compliqué.
On défait le monde, c'est 19h15, 20h. Soyez à l'écoute et vous réagissez. Vous commentez, vous avez le compte Twitter, la page Facebook de l'émission. Avant cela, honneur au rock dans RTL Soir avec l'histoire d'un château pas comme les autres, le château d'Héricourt, un lieu de légende où les plus grands noms se sont pressés pour accoucher de leurs plus grands titres. Laurent Jaoui signe un livre passionnant avec du Bowie, avec du Elton John, avec du Iggy Pop, avec du Higelin dedans. Il va nous en parler juste après ceci.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
J'avais très envie qu'on se fasse du bien aux oreilles ce vendredi dans RTL Soir, que l'on parle rock en majuscule. Hein, avec en studio en direct le journaliste et écrivain Laurent Jaoui. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Stéphane.
Merci d'être là à l'occasion de la sortie en librairie dans 10 petits jours d'un livre baptisé Hérouville, le château hanté du rock. Ce sont 300 pages, 60 photos, des anecdotes sur les icônes du rock. On apprend plein de choses sur ce lieu, ce château d'Hérouville, où quelques-uns des plus grands albums rock des années 70-80 ont été enregistrés. D'abord, pour tous ceux qui ne connaissent pas, il est où ce château? Il ressemble à quoi? Et à l'époque, il était à qui?
Alors, il n'est pas très loin d'ici, il est à une quarantaine de kilomètres, à côté d'Auvers-sur-Oise, dans le Val d'Oise. C'est un château du XVIe siècle, assez classique, au fond d'une grande cour derrière des grilles. Et il appartenait initialement à un musicien génial, un compositeur de génie qui s'appelle Michel Magne, qui a composé des centaines de musiques de films, les Tontons Flingueurs par exemple, les Angéliques, les OSS 117, et qui l'a acheté pour y vivre au début des années 60, et qui s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il pouvait y accueillir des artistes pour qu'ils viennent enregistrer des albums dans un studio résidentiel. Et c'est devenu le premier studio résidentiel au monde, au tout début des années 70, avec des conditions d'enregistrement exceptionnelles, une acoustique formidable, et des chambres, et des chambres, et des chambres, hein, dans un château, où les musiciens et leur entourage pouvaient rester tranquilles à l'abri des regards.
Ouais, c'était immense. Il y avait tennis, piscine aussi.
Tennis, piscine, oui, il y avait tout ce qu'il fallait. Restauration haut de gamme, et fête à peu près tous les soirs.
Ouais, le studio vraiment haut de gamme.
Oui, c'est-à-dire que tous les musiciens s'accorde à reconnaître que l'acoustique était exceptionnelle, et très vite en plus le studio s'est doté des enceintes et des consoles dernier cri, et le bois luné du XVIIIe siècle faisait que ce qui sortait de ce studio là était assez inimitable, et donc le bouche-à-oreille a fonctionné, ah oui. Et des musiciens du monde entier sont venus.
Voilà, le bouche-à-oreille, c'est pour ça que tout le monde justement a défilé, hein. David Bowie, Iggy Pop, Marvin Gaye, les Bee Gees, Pink Floyd et bien sûr tant d'autres. C'est ça qui a fait qu'il y a un succès.
Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire que dès qu'un artiste y allait, il en parlait à sa maison de disque en disant « j'ai été reçu dans des conditions exceptionnelles, j'étais à l'abri des regards, on a pu faire à peu près ce qu'on voulait, puis on a enregistré un bon disque, et à l'époque on enregistrait beaucoup, c'était un album par an, et donc Marc Bolan est venu, il en a parlé à David Bowie, Elton John est venu, il en a parlé à d'autres Anglais, Tom Jones est venu, Pink Floyd est venu. Ils sont tous venus et ils sont tous presque, pour la plupart, revenus tellement ça leur a plu.
On reste sur Elton John justement, ça a été un habitué des lieux.
Oui, il est venu, il a enregistré 3 albums en 2 ans, ce qui paraît complètement dingue, entre 72 et 74. Et puis quand on dit 3 albums, c'est ces albums où il y a tous les tubes, il y a Crocodile Rock, il y a Daniel, il y a Candle in the Wind, il y a Rocketman. Il est revenu ensuite pour répéter un spectacle qu'il donnait à Wembley, et il est passé à 4 ou 5 reprises au château avec ses Rolls, avec ses amants, avec tout son entourage, et avec une passion subite pour le vin rouge qu'il a découvert en se disant que finalement on était pas mal en France, quoi.
Ça, c'est quoi comme titre, Laurent ?
Ça, c'est Crocodile.
Absolument. Pourquoi hanter ce château ? Pourquoi il y a hanté dans le titre ?
Parce qu'il y a des manifestations un peu étranges que tous ont constatées, de bruits inattendus, de portes qui se ferment mal, de crucifix qui disparaissent, de poutres qui s'effondrent, d'enregistrements maudits, de 13
c'était,
coups de...
C'était
13...
des drogues, ça, non pas...
Bah, peut-être, mais en tout cas, ça concorde un peu. En tout cas, hanté, c'est peut-être un peu fort, vous savez, on a tous tendance un peu à exagérer. Habité, c'est sûr, mais il y a des témoignages incroyables de gens qui enregistraient les 12 coups des cloches de l'église pour le mettre sur le disque. C'était un grand classique, puis il réécoute la bande, il y en a 13. Alors, intervention extraordinaire, peut-être, des gens qui faisaient tourner les tables, qui faisaient tourner les esprits. Il y avait quelque chose dans ce château. Il y a plein de témoignages qui disent qu'il se passait quelque chose.
Il venait pour faire de la musique, évidemment, pour enregistrer, mais il venait faire la fête aussi.
Évidemment.
C'était vraiment la fête.
Bah, c'était une époque où on pouvait accepter l'idée de vivre ensemble, de vivre pratiquement en communauté. Il y avait des groupes qui vivaient en communauté, hein. Il y a un groupe français, Gong, ils étaient à Bernay dans l'Eure, ils sont arrivés à Hérouville, ils sont arrivés à une trentaine, et ils vivaient tous ensemble, femmes, enfants, amis, ça changeait, bon, enfin voilà. C'est l'époque qui voulait ça. Mmh. On était sur une époque très festive, on était sur une époque où tout le monde pouvait partager la table, et ça posait pas de soucis. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait, au même moment, plusieurs musiciens, plusieurs artistes, et que ça a échangé énormément. Et oui, il y a des anecdotes de fêtes arrosées, mais pas qu'arrosées, parfois avec du LSD, assez surréalistes, qui dure très très longtemps, avec des réveils douloureux, mais bon, l'époque acceptait ça sans aucun souci.
Alors David Bowie, il arrive comment, lui ? Comment il débarque ? Avec Iggy Pop, je crois, non ?
C'est Alors ça ? David Bowie, avant d'arriver avec Iggy Pop, il arrive d'abord en 72 pour faire un album de reprise qui s'appelle Pin Up. Et puis alors, il tombe totalement amoureux de l'endroit et il revient 3 ans plus tard, la direction a changé. Et il vient avec Iggy Pop, il est au Plaza Athénée à Paris et puis il s'ennuie un peu, il a besoin de calme. Il arrive au château et il dit au propriétaire des lieux, le nouveau propriétaire des lieux, Laurent Thibault, je pense qu'on va travailler ici. On a 2 albums enregistrés. Je vous présente Iggy Pop. Et ils sont restés 6 mois. Et ils ont fait 2 albums mythiques dans l'histoire de la musique. Là-haut pour David Bowie, qui est un album très sombre. Et The Idiot pour Iggy Pop, album sur lequel il y a Night Clubbing, qui est l'une des chansons qui a vraiment révélé Iggy Pop. Et ils sont restés 6 mois dans cet endroit. Là encore, à profiter des bienfaits et des délices de la vie à la française, quoi.
Ça va durer 15 ans. Hein,
ça dure de 70 à 85. Ouais.
Il n'y a jamais eu les Rolling Stones.
Alors, ils sont.
Il y a Bill Wyman qui est venu.
Non,
une fois.
Bill Wyman est venu. Il en a fait d'ailleurs une publicité énorme. Il était dans le sud de la France à l'époque. Il a enregistré Exile on Main Street à Villefranche, sur mer, près de Nice, avec les Stones. Puis ça ne se passait pas toujours très bien. Ils s'engueulaient beaucoup à l'époque. Il est venu. Il a dit oh, quel endroit, je vais t'amener du monde, etc. Il a fait venir des gens. En revanche, Mick Jagger, qui a enregistré à Paris pas mal, au studio Pathé Marconi à Boulogne, est venu au château. Il a négocié. Mais il trouvait ça un peu trop cher. Et donc, il n'a pas enregistré au château, mais ça a négocié sec. En revanche, il y a pas mal de groupes qui étaient au château et qui par moment allaient enregistrer à Pathé Marconi et qui ont côtoyé les Stones. Donc il y avait quand même une petite communion de pensée, une petite communauté de pensée entre les entre Jagger et le château.
Il y avait des Français ou pas ?
Oui, bien sûr. Alors il y a eu d'abord Jacques Higelin qui a vécu au château. Lui carrément, ça lui a tellement plu qu'il est,
il est resté, il s'est installé,
il a vécu à la Bergerie, il a fait 5 albums là-bas, dont Champagne. Enfin tous les albums qui l'ont lancé à la fin des années 70. Il y a Patrick Coutin qui est venu, qui a enregistré J'aime regarder les filles, qui est le tube, bon, évidemment générationnel. Il y a Charlie Licouture qui est passé. Il y a Bernard Lavillier. Il y a eu un peu plus tôt que Claude Nougaro et Eddie Mitchell. Mais c'est vrai que le château était aux trois quarts international, plutôt artistes internationaux et un quart français. Mais il y a eu effectivement pas mal d'artistes français qui y sont passés.
Dont Higelin.
Le contrôleur me rentre dedans. Et comme j'apprécie pas ses manières, j'y plante le micro dans sa lisière. C'est terminus, tout le monde descend.
Ça donne lieu à des rencontres absolument exceptionnelles hein, que vous décrivez dans votre livre. Je ne vais pas tout détailler, évidemment. Il y a 300 pages, 60 photos. C'est préface de Benjamin Biolay, d'ailleurs.
Qui aurait aimé découvrir ce château.
J'imagine.
Mais il avait 12 ans quand le château a fermé. Et il se trouve que l'un des ingénieurs du son mythique de ce château, c'est Dominique Blanc-Francard, qui était au début des années 70, avec qui Biolay a travaillé par la suite. Et Blanc-Francard lui a raconté un peu comment ça se passait au château, bien sûr.
Et il rêve de ça.
Oui, oui, ouais. parce que je crois que pour tout musicien, pouvoir échanger, pouvoir... être impliqué 24 heures sur 24 dans son travail, ne pas avoir à rentrer chez soi le soir et être à l'abri des regards, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux quand on veut créer.
Comment on signe un livre comme ça, Laurent Jaoui, au-delà de votre passion pour la musique, des recherches, des interviews, des archives ?
Des rencontres, ouais, une rencontre un peu décisive avec la personne, Laurent Thibault, qui a dirigé ce château pendant 11 ans, et puis des souvenirs de vinyle enregistrés au château d'Hérouville, recorded at le château d'Hérouville, c'est quoi, c'est où, et puis on s'appelle que c'était à 30 km de Paris, que ça a existé pendant 15 ans et que finalement on n'en a pas beaucoup parlé à l'époque et qu'il s'est passé des choses formidables, mais c'est peut-être aussi parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, ils ont pu vivre leur vie tranquillement. Et après c'est des rencontres, des musiciens qui témoignent et qui sont tous, pour la plupart du temps, jamais nostalgiques dans le sens c'était mieux avant, mais toujours très contents de raconter ces années où ils avaient entre 20 et 30 ans et où il s'est passé des choses formidables, quoi.
On peut s'écouter un peu de Iggy Pop ou pas, Greg? On bave ou... Il y a eu les Bee Gees aussi.
Oui, alors là, c'est totalement inattendu. C'est un album qui était plutôt rock. Et puis, les dirigeants du château reçoivent un appel de Robert Stigwood, qui est le producteur des Bee Gees, qui se sont lancés depuis 2-3 ans dans le disco. Il leur dit, bon, voilà, ils vont venir enregistrer 5 titres. Bon, très bien. Ils vont rester un mois et demi pour enregistrer 5 titres. Et ils font la bande originale d'un film qui s'appelle La fièvre du samedi soir, dont personne n'a entendu parler, tiré d'un article qui est paru dans un magazine new-yorkais. Les Bee Gees sont accueillis là-bas avec respect. Bon, mais ils sont pas vraiment dans l'ambiance rock du château. Ils enregistrent dans l'escalier central du château qui a une acoustique exceptionnelle. Et en un mois et demi, ils font 5 chansons qui sont Night Fever, Staying Alive, More Than a Woman et How Deep Is Your Love. Voilà, voilà.
Genre
40
ça,
millions
quoi.
D'exemplaires.
Cette histoire de château, là, ça correspond à une époque, vous le disiez, du rock avec ses stars, ses travers, ses excès, de la folie, de l'impro, des rencontres, des clashs. C'est plus ça aujourd'hui.
Ah
ça
non,
peut plus être ça.
Ah non, c'est plus ça du tout, parce qu'aujourd'hui, tout
c'est
est
trop
beaucoup
pro,
plus formaté.
C'est trop,
mais oui, bien sûr, c'est beaucoup plus formaté. Et puis surtout, je pense que les musiciens, ils n'ont qu'une seule envie aujourd'hui, c'est d'être chez eux le soir. Et puis surtout, ils travaillent chez eux. Ils ont des home studios. Ils n'ont pas à s'embêter, à partager une vie en commun. Non, je pense que c'est constitutif et caractéristique d'une époque. Mais on a bien évidemment changé d'époque. D'ailleurs, le château a commencé à péricliter au milieu des années 80, quand on a pu travailler chez soi et quand on a changé un peu d'état d'esprit aussi, quoi. On avait changé de logiciel. quoi.
C'était rentable ou pas ce château finalement, ou ça a été un gouffre?
Bah alors, il y a eu beaucoup de dettes, parce qu'en plus il y a eu beaucoup de fêtes, et une fois que les dettes ont été épongées, ben, ils ont commencé à perdre de l'argent parce qu'un château ça coûte très cher à entretenir. Donc il y a des témoignages assez dingues sur les poutres qui s'affaissent, les corniches, les trous, le froid, l'hiver. Donc non, bien sûr c'est un gouffre financier, mais je pense que les types c'était d'abord des artistes et absolument pas des gestionnaires, hein, vraiment pas.
C'est passionnant, merci Laurent Jaoui d'avoir partagé tout cela avec nous dans RTL Soir. Héroville, le château hanté du rock, c'est aux éditions Castor Musique. C'est à lire, c'est en librairie à partir du 12 mai.
Exactement.
C'est-à-dire là, très très vite.
Exactement.
Bonne soirée à vous.
Merci à vous.
h50, dans un instant, vous restez bien avec nous, c'est Éric Brunet qui prend la parole.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Éric Brunet dans RTL Soir, le vendredi, pour vos temps forts de la semaine. Bonsoir Éric.
Bonsoir Stéphane.
Première étape, c'était mardi. Le journaliste de LCI, Philippe Ballard, a annoncé qu'il serait tête de liste du Rassemblement National à Paris pour les élections régionales.
Eh oui, il a indiqué qu'il était encarté au RN depuis plusieurs mois déjà, et c'est pas la première fois qu'un journaliste se lance en politique. Noël Mamère, qui présentait le journal télévisé sur Antenne 2, était devenu maire de Bègles. Dominique Baudis, tiens, qui était le patron du journal de 20h de TF1, a été maire de Toulouse. Et puis Jean-Marie Cavada, tiens, ancien patron de Radio France, journaliste, élu député européen. Le phénomène, d'ailleurs, n'est pas propre à la France. En Angleterre, Boris Johnson, avant de devenir Premier ministre, fut un des journalistes de presse écrite les plus connus, très remarqué pour ses articles provocateurs et à l'humour grinçant. Bon, je parle pas des journalistes en couple avec les politiques, ça serait autre chose, mais retenez quand même que j'adore l'histoire. François Mitterrand, en 1992, avait été interviewé par deux journalistes, femmes de ministres, Anne Sinclair et Christine Ockrent. Bon, depuis quelques années, le nombre de journalistes qui se lancent en politique est en nette augmentation. Robert Ménard est devenu maire de Béziers. Laurent Saïm, journaliste. Bernard Guetta, journaliste, ont rejoint Emmanuel Macron, tout comme Bruno Roger Petit, promu porte-parole de l'Élysée. Laurent Geoffrin a quitté la direction de Libération pour créer son mouvement politique. Audrey Pulvar, journaliste, mènera la liste socialiste au régional en Ile-de-France. À droite comme à gauche, beaucoup de politiques ont commencé par le journalisme. Regardez dans l'histoire. Clémenceau, Aristide Briand, Jean Jaurès et même Mussolini. Sans parler des rumeurs sur une éventuelle candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2022, mais ça c'est une autre histoire.
C'était mercredi, Jean Castex, le chef du gouvernement, a dénoncé la tribune des militaires parue dans Valeurs Actuelles et déploré la récupération politique faite par Marine Le Pen.
C'est vrai qu'à gauche, plusieurs responsables politiques ont vu dans cette tribune un appel à la sédition. En cause, ce passage équivoque. Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active. Voilà. L'ambiguïté a été accentuée par la date de la publication de la tribune sur le site de Valeurs Actuelles, le 21 avril, jour anniversaire des 60 ans du putsch militaire d'Alger. J'aime bien les passerelles historiques, mais celle-ci, à mon avis, ne tient pas la route. Déjà, pour des raisons de contexte. Il y a 60 ans, l'armée française occupait une place centrale dans la société, et puis dans le monde en général. C'était la guerre froide, de nombreux pays étaient dirigés par des militaires. De Gaulle, Tito, Eisenhower, Franco, et puis il y avait des coups d'État sans arrêt, hein, en Grèce, au Brésil. Et puis surtout, comparons le profil des putschistes. Dans la tribune de Valeurs Actuelles, il n'y a aucun général 5 étoiles. Ce sont des généraux sans influence, souvent à la retraite, qui ont quitté le service actif depuis longtemps. Mais dans les putschistes de 61, il y avait le général Salan, le militaire le plus décoré de France, et qui avait été commandant des opérations en Algérie. Il y avait le général Challes, ancien commandant de l'OTAN. Il y avait les généraux Jouot et Zeller, qui étaient chefs d'état-major de l'armée de l'air et chefs d'état-major de l'armée de l'air. Enfin, les putschistes avaient avec eux les légionnaires,
arrière du 1er régiment étranger de parachutistes, ceux qui prendront le contrôle d'Alger. Bref, c'était à cette époque-là, il y a 60 ans, l'aristocratie de l'armée française. Ça s'est soldé par un fiasco, ce fameux putsch de 61. On a craint quand même que les militaires factieux atterrissent sur les aérodromes de la métropole. Il y avait même des chars qui avaient été disposés en 1961 devant l'Assemblée nationale. Bref, ne mélangeons pas tout. Aujourd'hui, une prise de pouvoir par l'armée est de l'ordre du fantasme. Quant à la tribune publiée dans Valeurs Actuelles, je pense qu'elle répond surtout au désir de retour de l'ordre d'une partie des Français, comme en témoigne d'ailleurs la popularité du général de Villiers.
Et puis c'était mercredi également, Eric, d'anciens activistes italiens, 7, ont été interpellés en France à la demande de l'Italie.
Oui, ils se sont réfugiés en France, mais ont été condamnés en Italie pour des actes de terrorisme commis dans les années 70. Les Brigades Rouges, c'était ce groupe terroriste qui a assassiné des magistrats, des policiers, des industriels, des journalistes et même des hommes politiques. En 78, tiens, les Brigades Rouges en Italie ont enlevé et exécuté de sang-froid Aldo Moro, ancien président du Conseil italien, président d'un parti, la Démocratie chrétienne. Il l'avait d'abord préalablement séquestré pendant 55 jours. Et dans les années 80, de nombreux activistes italiens sont venus se réfugier. Où ça ? En France. Et même en 1985, le président de la République, François Mitterrand, s'est engagé à ne pas les extrader. Ça porte un nom, ça s'est appelé la doctrine Mitterrand. Pour moi, cette doctrine est scandaleuse. Elle illustre la grande tolérance qu'une partie de la gauche a eue à l'égard du terrorisme, dès qu'il s'agissait du terrorisme d'extrême gauche, comme Jean-Paul Sartre, qui rendait visite en prison à Andreas Bader, le chef de la fraction Armée Rouge, ou ceux qui, comme Edoui Plenel, ont continué à soutenir les Palestiniens de Septembre Noir après les attentats aux Jeux Olympiques de Munich. Ça fait plus de 30 ans que la doctrine Mitterrand ne cesse de polluer les relations entre la France et l'Italie. Rome ne cessant de réclamer l'extradition de dizaines de personnes condamnées pour terrorisme par la justice. Comme si aujourd'hui, la Belgique, par exemple, refusait d'extrader des terroristes français qui seraient impliqués dans des attentats et qui continueraient à vivre tranquillement à Bruxelles. Le cas emblématique, c'est l'affaire Battisti, Cesare Battisti, membre des prolétaires armés pour le communisme. Un petit groupuscule qui a commis 4 assassinats en Italie dans les années 70. Eh bien, les autorités françaises ont refusé de l'extrader pendant des années. Sans rien renier de son passé, Battisti s'est lancé chez nous en France avec succès dans une carrière d'auteur de romans policiers. Et lorsqu'en 2004, il a été arrêté par la police française, Bernard-Henri Lévy, Bertrand Delanoë, François Hollande lui ont rendu visite à la prison de la Santé, tout en sachant qu'il avait assassiné plusieurs personnes. Quand Battisti a enfin été extradé en Italie il y a 2 ans, il a fini par reconnaître sa culpabilité dans 4 assassinats. Et il s'est même moqué des intellectuels et politiques français de gauche qui l'ont soutenu. Écoutez bien ce qu'il a dit, tiens, dans son procès. Il a dit « Je n'ai jamais été victime d'une injustice. Je me suis moqué de tous ceux qui m'ont aidé. Je n'ai même pas eu besoin de mentir à certains d'entre eux. » Emmanuel Macron aime répéter qu'il faudrait déconstruire l'histoire de France. Moi, j'aimerais qu'on commence déjà par adresser nos excuses à l'Italie pour la doctrine Mitterrand, qui reste pour moi une honte de notre histoire récente.
Éric Brunet, la version longue d'Éric, c'est dimanche bien sûr sur RTL, 13h, 14h, votre émission de débat. Où va la France ? À dimanche, Éric.
À dimanche.
18h58, vous restez bien là dans un instant. Toute l'actualité avec le journal et Alexandre de Saint-Aignan. À tout de suite.
RTL Soir.
Il est pile 19h.
RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
Et donc Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Avec à la une un nouveau coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination.
Les prises de rendez-vous se multiplient ces derniers jours et la cible s'élargit encore un peu plus. 4 millions de personnes fragiles seront éligibles à partir de demain. Dans ce journal également, l'inquiétude des enseignants face aux fermetures de classes une semaine après la rentrée en maternelle et en primaire. La libération des 2 religieux français retenus depuis quasiment 3 semaines en Haïti. Thomas Pesquet qui nous parle de ses toilettes et puis l'entraîneur des Girondins de Bordeaux en roue libre face à la crainte d'une relégation.
La fraîcheur encore demain, la météo complète à la fin du journal et dans la foulée, 19h15, on va défaire le monde.
RTL Soir.
Première dose et deuxième dose confondues. 637 000 rendez-vous de vaccination ont été enregistrés sur Doctolib hier. C'est un record depuis le début de la campagne. Une accélération particulièrement notable en Ile-de-France grâce au vaccinodrome du Stade de France. Et ça risque de continuer. Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
Dès demain, 4 millions de Français supplémentaires vont pouvoir se faire vacciner.
Exactement. Vous êtes concerné si vous avez entre 18 et 50 ans et que vous souffrez d'apnée du sommeil, d'une hypertension, d'un cancer, d'une insuffisance rénale, un asthme sévère ou une sclérose en plaques, mais aussi si vous êtes immunodéprimé, diabétique, cardiaque. Enfin, plus de la moitié de ces 4 millions de nouveaux appelés sont des personnes obèses. Anne-Sophie Joly, présidente du collectif des associations d'obèses.
40% des décès sont des personnes ayant des problèmes de poids. Donc pour nous, c'est évidemment un soulagement. On invite les personnes à aller se faire vacciner et d'essayer de reprendre un bout de début de vie normal, quoi, en fait.
Les personnes obèses et les malades chroniques peuvent donc prendre rendez-vous dès maintenant dans un centre de vaccination. Il y a d'ailleurs déjà ce soir des créneaux ouverts sur les plateformes en ligne comme Doctolib. Le ministère de la Santé nous indique que les centres seront assez souples. Ça veut dire que vous ne serez pas obligé de vous présenter muni d'une prescription de votre médecin. Il faudra quand même prouver votre pathologie avec, par exemple, une ordonnance de médicaments, une radio ou bien un compte-rendu d'hospitalisation.
Les explications signées Agathe Landais pour RTL. À partir de lundi prochain, les pilotes, les hôtesses, les stewards vont eux aussi pouvoir se faire vacciner. C'est une information RTL. Quel que soit leur âge, à condition qu'ils soient susceptibles de voler vers l'Inde, le Brésil, l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud, des pays particulièrement touchés par l'épidémie et par des variants qui sont plus contagieux.
Et le gouvernement veut permettre aux volontaires de se faire vacciné avec l'AstraZeneca sans limite d'âge.
Malgré la polémique sur les effets secondaires, Olivier Véran a annoncé qu'il va saisir les autorités de santé. Il souhaite étudier la possibilité de vacciner ceux qui le souhaitent avec l'AstraZeneca en signant une décharge. C'est déjà ce qui se fait en Allemagne.
C'était Alexandre, la solution miracle d'Emmanuel Macron pour réconcilier les Français avec la vaccination. Le collectif citoyen sur les vaccins vient de rendre son rapport.
Annoncé en grande pompe le 24 novembre dernier par le chef de l'État, 31 citoyens avaient ensuite été tirés au sort. Leur rôle, faire remonter les critiques et les inquiétudes au sujet des vaccins. Ça fait 3 mois et demi qu'ils travaillent dans l'ombre. Leurs conclusions viennent d'être transmises à Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. Un rapport qui reflète surtout la colère et la défiance des Français, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, un rapport sévère sur la communication autour du vaccin. Il déplore que l'information varie du jour au lendemain, que les politiques et les experts se contredisent. Pas faux, mais il oublie qu'en science, les certitudes se forgent grâce à une longue expérience. Sur AstraZeneca, la communication était disproportionnée, pointe le collectif, sans dire s'il s'agit des médias, des laboratoires ou des pouvoirs publics. Tenter de changer le nom du vaccin était aussi, selon eux, une erreur. Ils mettent en garde contre des décisions purement politiques, mal comprises du public, ce qui est sans doute un vœu pieux. Au total, le rapport empile pas mal de lieux communs et de contradictions. Les campagnes de communication, par exemple, ont peut-être tardé, mais ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui. En revanche, le collectif passe sous silence des sujets criants. Comment mieux éduquer le public à l'information scientifique? Ne pas croire la première rumeur circulant sur les réseaux sociaux? En fait, il traduit les craintes du public, mais y avait-il besoin de 3 mois de travail pour s'en apercevoir?
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
Premier bilan de la rentrée des classes encore perturbée par l'épidémie.
Alors qu'une partie des collégiens et des lycéens vont retourner en classe la semaine prochaine, les écoles maternelles et élémentaires ont repris en présentiel depuis lundi dernier avec un protocole sanitaire strict. Fermeture de la classe dès le premier cas de Covid. Conséquence, plus d'un millier de classes ont dû fermer leurs portes cette semaine. Une proportion de 0,39%, mais pour Guylaine David, représentante des enseignants, porte-parole du SNUIPP, ces chiffres ne sont pas rassurants.
À la reprise de la semaine des vacances de Noël, on avait beaucoup moins d'élèves contaminés, hein, puisqu'on était à 1928 élèves contaminés, collège, école et lycée. Là, on ne parle que des écoles et que des élèves des écoles maternelles et élémentaires, et on voit bien que 2067, ça concerne quand même pas mal d'élèves. C'est pas réjouissant du tout. On sait aussi qu'au moment où on va rouvrir collège et lycée, on a des fratries qui vont reprendre sur les 3 niveaux et on risque aussi d'avoir de la contamination plus importante. Donc, y aura forcément la semaine prochaine un taux plus élevé, mais on a vraiment l'impression là qu'on reprend assez fortement.
Des propos recueillis par Armel Lévy pour RTL.
Et puis le calendrier de réouverture continue de se préciser. Les cures thermales pourront accueillir du public à partir du 9 juin.
La plupart des établissements thermaux de France sont fermés depuis le mois d'octobre, alors qu'ils accueillent habituellement 580 000 curistes chaque année. La réouverture va se faire de façon progressive avec une fréquentation très limitée. Dans un premier temps, un reportage de Guillaume Frixon à la station thermale de Roya dans le Puy-de-Dôme.
Je rappelle quand même qu'on était le seul établissement de soins remboursé par la Sécu qui n'avait pas d'autorisation d'ouverture.
Dominique Ferrandon, le directeur des thermes de Roya, qui accueille en moyenne 600 curistes par jour, serait presque soulagé. Oui, les cures vont enfin pouvoir ouvrir, Mais les stations thermales devront aussi respecter une jauge d'accueil limitée à 30%.
Aujourd'hui, on va ouvrir à perte. Pourquoi lever la jauge fin juin et nous l'imposer le 9 juin? Je rappelle quand même que la moyenne d'âge d'un curiste à Roya est de 68 ans. Ça veut dire qu'en gros, tous ceux qui vont venir faire les cures, pour la grande majorité, ils seront vaccinés.
Avec la crise sanitaire l'an dernier, France, 77 ans, a été privée de la cure thermale qu'elle réalise depuis 25 ans pour des problèmes rhumatologiques importants. Alors la perspective de pouvoir reprendre ses soins est un soulagement absolu.
Les cures sont nécessaires. Ça ne m'empêche pas de prendre mes médicaments, parce que je suis obligée, ça sera à vie. Mais n'empêche que la cure, entre 6 et 8 mois, je suis tranquille.
Épicerie, coiffeur, location immobilière, avec la reprise des cures thermales, c'est toute une économie locale qui va également pouvoir profiter de ce nouvel élan.
Guillaume Frixon pour RTL.
Vous restez bien avec nous. Dans un instant, c'est la suite du journal dans RTL Soir avec du camping dans l'espace avec Thomas Pesquet.
6 couchettes pour 11 membres d'équipage, ça veut dire qu'il y en a 5 qui campent. Un système de toilettes côté russe et des toilettes côté américain. Donc ça fait que 2 pour 11 personnes. Parfois, il y a un petit peu la queue pendant la journée.
Bah, tout ça, ça promet. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 19h09 en ce vendredi. Et une bonne nouvelle en Haïti, les deux religieux français ont été libérés.
Ils avaient été enlevés il y a un peu moins de 3 semaines, près de la capitale Port-au-Prince. Les ravisseurs réclamaient une rançon d'1 million d'euros. Alors on ne sait pas s'il y a eu ou non versement d'une rançon, mais ils sont en bonne santé. Ces deux Français appartiennent à la Société des prêtres de Saint-Jacques, basée en Bretagne. Le père Giorgino Ramo a eu de leurs nouvelles tout à l'heure.
Ils sont tous libérés et ils se portent bien. Donc maintenant, on attend pour pouvoir leur faire une visite médicale pour savoir dans quel état se trouve leur santé.
Comment elle s'est passée justement cette libération ?
Des pourparlers avec les ravisseurs, donc des rencontres, etc. Ça a été long. On n'avait aucun pouvoir en fait sur eux. Hein. Et puis surtout dans un pays où la sécurité n'est pas garantie. Donc un grand soulagement de savoir que bon. Voilà, ils sont libérés. Notre foi n'a pas été déçue. Notre foi en l'homme, notre foi en Dieu. Pour nous, on tient à remercier en particulier l'Église en Haïti qui se sont vraiment donnés pour trouver avec d'autres acteurs donc cette libération. Et puis l'ambassade de France aussi. Donc voilà.
Des propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL.
On prend des nouvelles de Thomas Pesquet comme promis après une semaine à bord de la Station Spatiale Internationale. Alors comme un poisson dans l'eau. Hein.
Mais le bocal commence à devenir peut-être un peu trop petit. Hein. Depuis l'arrivée du Français, il y a 2 équipages qui se côtoient à bord de l'ISS à plus de 400 km au-dessus de nos têtes. Une colloque qui n'a pas l'air de trop peser sur le moral de l'astronaute tricolore. Il a donné de ses nouvelles tout à l'heure. Une visioconférence depuis l'espace, Patrick Tegero.
Thomas Pesquet flottait doucement en apesanteur, jouant malicieusement avec une map monde gonflable, visiblement heureux de son retour dans l'ISS.
Ouais, c'est un vrai plaisir d'être ici, c'est un peu ma deuxième maison. J'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé mes habitudes.
Et il s'amuse un peu de la surpopulation dans la station.
6 couchettes pour 11 membres d'équipage, ça veut dire qu'il y en a 5 qui campent. La chose la plus difficile peut-être, c'est qu'on a un système de toilettes côté russe et des toilettes côté américain. Donc ça fait que 2 pour 11 personnes. Parfois, il y a un petit peu la queue pendant la journée.
Toutes les expériences qu'il va mener ont été décidé des années avant le voile. Alors rien de directement en rapport avec la Covid, si ce n'est des travaux sur des surfaces antimicrobiennes et antibactériennes.
C'est-à-dire que c'est des surfaces qui retiennent pas les virus et les microbes au contact. Nous, on en a besoin parce qu'on désinfecte toutes les surfaces qu'on touche, comme c'est les rails bleus qui nous permettent de nous tenir. Vous imaginez, vous mettez ça dans un métro, dans un aéroport, dans un hôpital, ça enraye tout de suite la propagation des pandémies.
C'est très prometteur. Au total, 232 expériences scientifiques seront réalisées en 6 mois, un sacré boulot. Thomas espère pouvoir s'en échapper un peu lors d'une sortie extravéhiculaire, c'est prévu pour déployer de nouveaux panneaux solaires.
Patrick Tegero pour RTL.
On revient sur Terre avec le football et les Girondins, tellement mauvais que leur entraîneur veut les remplacer par des jeunes du centre de formation.
Le club est au bord du précipice après avoir été lâché par son propriétaire américain. Bordeaux menace désormais de descendre en Ligue 2, actuellement 16e du classement après 11 défaites sur les 13 derniers matchs. Denis Granjou, il ne reste plus que 4 journées de championnat. Alors le coach des Girondins veut tenter le tout pour le tout.
Oui, de sa voix grave, Jean-Louis Gasset a été clair.
Mon seuil de confiance a été atteint.
L'entraîneur bordelais ne cite pas de nom, mais précise que dimanche, de nombreux titulaires ne seront plus titulaires, justement.
Et que je mette peut-être des petits qui eux, vont, j'espère, rentrer là-dedans en prenant le taureau par les cornes.
Oui, 40 ans de crise, les métaphores peuvent venir de tous les horizons. La tauromachie, on vient de l'entendre, mais aussi le bâtiment et travaux publics.
C'était une tuile, et puis tout d'un coup, c'est le toit qui tombe. Aujourd'hui, on n'est plus dans les paillettes. Aujourd'hui, on est dans le goudron et il faut s'en sortir.
Mais trêve d'ironie, Jean-Louis Gasset ne triche pas, surtout quand il évoque les salariés qui sont venus hier, après l'entraînement, parler aux joueurs.
Qui sont malheureux, qui sont inquiets pour leur avenir et qui ont dit aux joueurs, on a confiance en vous, faites-le beaucoup pour vous, mais un peu pour nous. Et là vraiment, ça va droit au cœur, quoi.
Une émotion qui sera peut-être suivie d'une victoire, enfin, face à Rennes, dimanche après-midi.
Denis Grandjou pour RTL à Paris. Kylian Mbappé forfait pour PSG Lens demain après-midi en Ligue 1. Il souffre d'une contracture à un mollet. On ne sait pas encore si l'attaquant parisien pourra jouer mardi prochain en Ligue des Champions pour le match retour contre Manchester City. Et puis en Ligue 1, du foot à suivre ce soir avec Marseille contre Strasbourg. Un match à suivre en intégralité dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro.
Et ça tombe bien, on vous retrouve juste à 20h tout à l'heure, Alexandre. Merci. L'actualité, c'est sur l'appli RTL quand vous le souhaitez. La météo, Céline, d'accord. Oui. Un samedi humide.
Oui, c'est vrai, on aura de la pluie, hein, notamment sur un gros quart sud-est, des averses soutenues parfois orageuses, de la neige même sur les Alpes, hein, 2800 mètres, et un vent bien présent près de la Méditerranée sur les Caps Corses. Pour les autres, hein, la moitié nord, là aussi, ce sera nuageux avec un risque d'averse. Et puis, on le disait, il va faire froid, froid, frais même. Le printemps a vraiment du mal à s'installer avec demain matin 2 à 8 degrés en moyenne sur la moitié nord, 5 à 13 pour la moitié sud et 12 à 17 du nord au sud pour les températures maximales de la journée. On ira quand même jusqu'à 18 degrés du côté de Bastia.
Merci, c'est complet, c'est signé Céline Dacosta. Vous restez bien là, dans un instant, on défait le monde. Nous sommes vendredi soir avec toute l'équipe, Cyprien Signy, Laurent Tessier, Brice Dugénie, Greg aux manettes, et même en guest ce soir, yes. Alice Moreno.
Fou,
à tout de suite.
RTL Soir.